Nous escortons Casca, partie posée s'est collée de l'autre côté du lac, le revenu de sa petite chasse étant l'essentiel de notre subsistance. Pour rechercher les terriers à proximité desquels installer les collets, il faut aller à contre-vent, en regardant bien où l'on pose ses pieds, surtout pas sur une coulée du gibier, qu'on repère à ses petites touffes de poils accrochées aux épines, à ses crottes essaimées, aux écorces d'arbres qu'il grignote. Cela exige une grande concentration. Son odeur de chien étant prohibée, Chini est resté attaché à la cabane. Moi-même, risquant de tout faire rater par quelque enfantillage, elles m'ont laissé attendre leur retour au bord du lac. Surtout pas les fesses dans l'herbe, à cause des tiques. Maintenant, disparues dans les bois, elles ne sont plus à portée de voix. En théorie, je devrais avoir peur d'être laissée à moi-même, faible enfant sans défense. Or, l'esseulement m'emplit d'orgueil, une griserie des sens et du cœur, pure joie d'être, n'existe que le présent. Les choses immédiates, mes sensations, ma solitude. Étendue, immobile sur les cailloux, sans battre d'un cil, uniquement attentive à inspirer l'air parfumé de résine et d'humus qui palpe mes joues, mon front, avec la légèreté de doigts musiciens. Tout est vivant éternellement. L'insondable sérénité de l'azur, des sommets, la libre et fraîche végétation, à l'assaut des pentes dupliquent leur double spectacle dans l'eau du lac Kémen, en vert et en droit, identiques en netteté, altitude et beauté, en majesté. Juste en leur milieu, je suis. C'est pourquoi quand l'herbe bouge tout près, délicatement froissée par quelqu'un qui, pas à pas furtif, approche, timide, attentif, je ferme les yeux pour mieux l'écouter, mieux inviter son approche. Déjà, sa truffe humide renifle la mienne. Ses moustaches me chatouillent. Nos souffles se mêlent. Nous respirons l'un l'autre au même rythme, épousant le remous du vent, retroussant son poil et le mien. Ses babines sur les miennes, il me lèche de sa fine langue râpeuse à petits coups baveux. Nous nous baisons avec la volupté d'un ressac intérieur qui éclot, enfle et s'épanouit en mer étale. Il paraît qu'elles m'ont trouvé vautré nez à nez avec le renard d'eau. À leur venue, il a fui, plus vif que l'éclair, mais avant qu'il ne redevienne invisible dans les bois, Casca l'a reconnu à son pelage roux et noir, sa longue queue duveteuse et son blanc museau effilé. Elle juge à son premier poil qu'il est tout jeune, à peine sevré peut-être. Je n'ai rien vu. Cependant, il m'a abordé en toute loyauté, m'a distingué et baisé en tant que son double. De ce jour, nous sommes réversibles par mutuel agrément. De ce fait, immunisé, je n'attraperai aucune des maladies qu'ont les renards parfois. Casca dit désormais que je m'appelle Nez de renard.
Histoire policière. Une puce se promenait sur le bras d'un fauteuil. Elle rencontra un long cheveu blond qui se regardait dans un miroir de poche. « Hé !» fit le cheveu. « Mais faites donc attention où vous marchez !»« Surtout ne me touchez pas, ne me déplacez pas. Je suis un indice. » « Un indice ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Figurez-vous qu'un crime a été commis ici, dans cette pièce. On a découvert la victime sur le fauteuil d'en face, une balle en plein cœur. L'enquête a prouvé que l'assassin était assis sur le fauteuil où nous nous trouvons. Alors, voyez-vous, je suis extrêmement important. Quand les policiers me découvriront, ils chercheront d'où je viens. Et grâce à moi, ils démasqueront l'assassin. Tout le monde parlera de moi. Les journaux, la télé, je vais devenir célèbre. Si je comprends bien, dit la puce, on a intérêt à être chauve quand on veut trucider quelqu'un. Ces bavards de cheveux sont toujours prêts à vous trahir, rien que pour se faire mousser. Alors, elle jeta la perruque bouclée qu'elle portait ce jour-là et abattit froidement le long cheveu blond d'un coup de revolver tiré en plein cœur. Et puis, il y avait la mauvaise saison. Elle pouvait faire son apparition du jour au lendemain. Il fallait alors fermer les fenêtres la nuit pour empêcher la pluie d'entrer et le vent froid arrachait les feuilles des arbres sur la place de la Contrescarpe. Les feuilles gisaient, détrempées sous la pluie, et le vent cinglait de pluie les gros autobus verts au terminus, et le café des amateurs était bondé derrière ses vitres embuées par la chaleur et la fumée. C'était un café triste et mal tenu, où les ivrognes du quartier s'agglutinaient, et j'en étais toujours écartée par l'odeur des corps mal lavés et la senteur aigre de soûlerie qui régnait. Les hommes et les femmes qui fréquentaient les amateurs étaient tout le temps ivres, ou tout au moins aussi longtemps qu'ils en avaient les moyens, surtout à force de vin qu'ils achetaient par demi-litre ou par litre. Les ivrognesses étaient connues sous le nom de poivrottes, qui désignent les alcooliques de sexe féminin. Le café des amateurs était le tout à l'égout de la rue Mouffetard, une merveilleuse rue commerçante, étroite et très passante, qui mène à la place de la Contrescarpe. Le café sur la place Saint-Michel, lui, était un café plaisant, propre et chaud et hospitalier. Et je pendis mon vieil imperméable au porte-manteau pour le faire sécher. J'accrochais mon feutre usé et délavé à une patère au-dessus de la banquette et commandais un café au lait. Le garçon me servit et je pris mon cahier dans la poche de ma veste ainsi qu'un crayon et me mis à écrire. J'écrivais une histoire que je situais là-haut dans le Michigan et comme la journée était froide et dure, venteuse, je décrivais dans le conte une journée toute semblable. J'avais assisté successivement à bien des fins d'automne lorsque j'étais enfant, puis adolescent, puis jeune homme, et je savais qu'il est certains endroits où l'on peut en parler mieux qu'ailleurs. Dans le conte, je décrivais des garçons en train de lever le coude, et cela me donna soif. Et je commandais un rhum Saint-James. La saveur en était merveilleuse par cette froide soirée et je continuais à écrire. Fort à l'aise déjà, le corps et l'esprit tout réchauffés par ce bon rhum de la Martinique.